VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le changement climatique, les exhortations à agir vite et fort pour sauver l'humanité qui subit les assauts du dérèglement climatique se sont multipliées ce lundi à Madrid, en Espagne, à l'ouverture de la COP25, la 25e conférence sur le climat. Le monde est à un tournant et il doit choisir entre l'espoir d'un monde meilleur en agissant maintenant de façon radicale ou la capitulation, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aux participants à la réunion. Les ministres de l'Environnement et des experts de près de 200 pays sont dans la capitale espagnole pour les entretiens annuels sur le climat. Des consultations menées par les Nations Unies, Gabi Dorsil.
La COP25 suit une série d'études alarmantes et de preuves concrètes des retombées potentiellement catastrophiques du changement climatique. Hier encore, le Royaume-Uni affirmait que les gaz à effet de serre ont atteint de nouveaux records l'an dernier, malgré les promesses mondiales de les réduire. La conférence va durer 2 semaines et préparera le terrain pour 2020, la prochaine échéance de 5 ans à laquelle les pays devront mettre à jour leurs objectifs de réduction des émissions. Un grand point négatif pour les environnementalistes, l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis, devrait se retirer du pacte de Paris pour le climat en novembre prochain. D'autres pays, comme la Chine et l'Inde, continuent de dépendre d'industries polluantes, même lorsqu'elles adoptent les énergies renouvelables. Quant à l'Union européenne, elle propose un Green Deal visant à rendre la région neutre en carbone d'ici 2050. Des dizaines de pays se sont également engagés à augmenter leurs objectifs de réduction des émissions.
La lutte contre les djihadistes au Sahel. Maintenant, la France rend hommage ce lundi aux 13 soldats français tués dans le nord-est du Mali le mois dernier, quand 2 hélicoptères sont entrés en collision lors d'une opération de combat contre des présumés djihadistes dans la zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso. Le président français Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre à Paris avant de remettre la Légion d'honneur à titre posthume à chacun des militaires tués. Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, assistera aux côtés du gouvernement français et des familles des victimes à cet hommage prévu dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides à Paris, monument qui abrite notamment la tombe de l'empereur Napoléon. Sur le terrain au Sahel, les attaques djihadistes continuent. Au Burkina Faso, au moins 14 personnes ont été tuées dans une incursion qui a visé une église protestante dimanche dans l'est du pays. Il s'agit de Antoukoura, une localité qui fait frontière avec le Niger. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Selon des sources concordantes, c'est pendant la messe que des individus armés sont apparus et ont ouvert le feu sur les fidèles. 14 morts et plusieurs blessés, selon le gouverneur de la région. Les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération pour porter secours aux blessés et ont entrepris un ratissage dans la zone, précise le gouverneur. Des églises et mosquées avaient déjà été prises pour cible ces derniers mois par des groupes djihadistes. Le 23 mai, des assaillants, au nombre de 8, avaient ouvert le feu sur des fidèles lors de la célébration de la messe de dimanche dans l'église catholique de Toulfé, un village situé dans le nord du Burkina Faso. Et le 11 octobre, l'attaque de la grande mosquée de Salmossi, également dans le nord, avait fait 16 morts et des blessés. L'attaque avait eu lieu au moment de la prière du vendredi soir. Ce week-end, l'armée a annoncé avoir abattu 6 terroristes, dont un leader qui agissait dans la zone de Pau, à 145 km au sud de la capitale burkinabé, au cours d'une opération. Près de 500 000 personnes ont fui leur domicile dans le nord et l'est en raison des attaques, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui fait état d'une crise humanitaire en cours, touchant quelque 1,5 million de personnes dans le pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali voisin, la brigade de gendarmerie de Ménaka a été la cible d'une attaque d'hommes armés qui serait venus à moto. 2 gendarmes ont perdu la vie. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
L'attaque s'est produite ce dimanche entre 13h et 14h, heure locale, au poste de gendarmerie situé à la rentrée de la ville de Ménaka. Les assaillants, au nombre de 2, étaient venus sur une moto et ont ouvert le feu sur les gendarmes assis au poste. Le bilan est de 2 gendarmes tués et 1/3 grièvement blessé. Les populations sont restées tirées chez elles toute la nuit puisque les autorités locales ont décrété un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Les personnes interrogés nous ont affirmé qu'elle vive dans la crainte totale. Gao. Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, les forces de sécurité congolaises ont procédé aujourd'hui à des tirs de sommation à balles réelles pour disperser des manifestants anti-ONU à Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. La police et l'armée ont tiré en l'air et en rafale pendant près de 30 minutes face à des dizaines de jeunes qui voulaient se rendre dans des installations onusiennes déjà attaquées lundi dernier. À l'appel des organisations de la société civile, une grève générale est observée ce lundi à Beni. Conflit en Libye maintenant, au moins 5 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors du raid aérien contre un quartier résidentiel en banlieue de Tripoli, la capitale. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole du ministère de la Santé en précisant que ces frappes visaient le quartier d'Al-Souani et ont fait également 10 blessés civils, dont certains grièvement. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le 4 avril, début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la capitale, siège du GNA, le gouvernement libyen d'union nationale reconnu par l'ONU. Actualité américaine maintenant, la Maison-Blanche ne participera pas mercredi à une audition au Congrès des États-Unis qui marque le début d'une nouvelle phase de la procédure de destitution contre le président Donald Trump. Mais l'administration Trump se réserve la possibilité de le faire ultérieurement. C'est ce qu'a annoncé dimanche l'avocat de la présidence. La commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui entame cette semaine les discussions en vue d'une éventuelle mise en accusation du président Trump, avait convié la Maison-Blanche à participer à ses travaux, soit en personne, soit par l'entremise de ses avocats, ou en posant des questions écrites aux témoins. Le président Donald Trump fait donc face à un processus de mise en accusation à la Chambre des représentants du Congrès. Mais c'est au Sénat que reviendra la tâche de décider s'il faut ou non le démettre de ses fonctions de chef de l'État. Les précisions de Lionel Gaïma.
La mise en accusation du président Trump par la Chambre des représentants passe par l'élaboration et l'adoption d'articles l'inculpant des crimes dont il est accusé. L'affaire est ensuite jugée par le Sénat. Lorsque le mis en cause est le président de la République, alors c'est le président de la Cour suprême qui décide le procès, explique Susan Lowe-Blodge de la faculté de droit de l'université Georgetown de Washington.
Sinon, c'est le vice-président qui préside déjà le Sénat, ce qui représenterait pour lui un conflit d'intérêts.
Plusieurs membres du parti majoritaire à la Chambre, les démocrates actuellement, des représentants joueront le rôle du procureur. Les membres du Sénat, eux, seront les jurés. Ils écouteront les chefs d'accusation, de même que d'éventuels témoins. La personnalité jugée aura droit à des avocats pour se défendre. Les voix d'au moins 2/3 des sénateurs sont nécessaires pour limoger le président. John Fortier du Centre politique bipartisan.
Pour qu'un président soit démis de ses fonctions, les deux parties, une importante majorité des deux parts, doit se mettre d'accord.
Au printemps de 1868, le procès du président Andrew Johnson a pris 11 semaines. Des 11 articles de mise en accusation présentés aux sénateurs, seulement 3 ont fait l'objet de vote. Alors que la plupart des sénateurs s'étaient prononcés en faveur du limogeage de Johnson, il leur manquait une voix pour atteindre la majorité des 2/3 nécessaires pour le faire. Thomas Schrod de Vanderbilt University.
Ainsi donc, les 2/3 sont fondamentaux. Vous devez convaincre un grand nombre de législateurs au Sénat.
Le procès du président Bill Clinton a eu lieu devant un Sénat politiquement divisé. Les républicains y étaient majoritaires, mais faisaient face à des réélections difficiles. William Gaston de la Brookings Institution, ici à Washington.
It came over to the Senate.
Le dossier est arrivé au Sénat et il y avait suffisamment de décence et de bonne volonté dans les deux camps. Républicains et démocrates ont dit « Nous ne sommes pas d'accord avec le résultat, mais nous pouvons convenir d'un processus digne » et ils l'ont fait.
Après 4 semaines de procès, les sénateurs n'étaient pas parvenus à la majorité des 2/3 nécessaires pour juger le président Clinton coupable. Pour ce qui est du président Trump, il compte sur la majorité républicaine du Sénat pour le tirer d'affaire.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Oh.